Oui, donc les organisateurs du colloque dont je fais partie ont considéré qu'il était important de clarifier certaines notions pour que nos discussions donc de la journée se passent dans un cadre sans trop de confusion conceptuelle. Je dois dire que j'étais assez contente en fait de pouvoir préparer cette introduction parce que ça m'a permis moi-même de clarifier certaines choses. Ce qui est jusque-là, quand on discutait du hasard, je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça renvoie, etc. Et j'ai trouvé différentes définitions, donc j'ai essayé donc, de clarifier les choses. Et par ailleurs, j'introduis certaines questions. Donc, si vous êtes ici, c'est vrai que vous êtes a priori convaincu que le thème vaut la peine, mais quand même mentionner quelques questions pour voir la richesse aussi de cette thématique. Donc, d'abord, l'étymologie du mot. Alors, c'est vrai que l'étymologie ne renseignait pas sur le vrai sens, mais c'est quand même intéressant à noter que le mot hasard, en fait, dérive de l'arabe oriental, al-zar, qui désigna donc jusqu'au XIIe siècle le jeu des dés. Et le mot aléatoire, en fait, a la même racine, parce que aléa, donc maintenant en latin, c'est le dé. Si on regarde la définition maintenant du mot que donne le grand Robert, on trouve d'abord, donc un sens vigné, risque, circonstance périlleuse. Ensuite, on s'approche davantage des notions qui vont nous préoccuper dans la journée, donc un cas ou un événement fortuit, un concours de circonstances inattendues et inexplicables, et encore la cause fictive de ce qui arrive sans raison apparente ou explicable. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi le premier sens, donc le sens vieilli, risque aux circonstances périlleuses, est lié aux deux autres, parce que ce qui est inexpliqué, ce qui est inexplicable, évidemment, très souvent constitue un risque. Alors, il y a aussi des hasards heureux, mais assez souvent, c'est plutôt un risque ou une circonstance périlleuse. Je vais moi-même utiliser, et je propose d'utiliser cette définition au cours de la journée, de dire un événement dû au hasard est un événement sans cause. Maintenant, un premier avertissement, et nous devrons être attentifs à cela tout au long de la journée. En fait, il y a une fâcheuse tendance à conférer un rôle causal au hasard, voire à le diviniser. Et je vous donne trois exemples. Le proverbe populaire, le hasard fait bien les choses. Mais le hasard ne fait rien du tout. Le hasard est donc justement le mot que nous utilisons quand un événement n'a pas de cause. Mais ce n'est pas un agent, ce n'est pas une cause. Et cette tendance, justement, qu'on trouve dans la sagesse populaire, on la trouve donc jusqu'en mythologie. Les Grecs et les Romains avaient une déesse, donc Tyché pour les Grecs, Fortuna pour les Romains, qui présidait au destin des humains, de la ville, de l'État, mais justement de façon imprévisible. Et Calvin soulignait d'ailleurs que la Fortuna n'a aucune place dans la piété chrétienne. Mais cette divinisation du hasard n'est pas du tout limitée à des mythologies passées. Vous la trouvez par exemple sous la plume de Jacques Monod, qui écrit « Le hasard seul est la source de toute nouveauté, de toute création dans la biosphère. » Mais le hasard ne fait rien du tout. Donc lui attribuer la nouveauté, et même pour Monod de dire que c'est la source de toute nouveauté, c'est une confusion. Maintenant, quelques distinctions qui me semblent importantes et qui vont nous aider aussi dans nos discussions et qu'il s'agira de garder à l'esprit. Si un événement du hasard est un événement sans cause, se pose la question, en fait, ce qu'on veut dire quand on dit « sans cause ». Donc, d'abord, cause inexistante ou cause inconnue. À l'époque de la science classique, on considérait que tout événement a une cause. Nous avons vu une citation de Voltaire qui dit cela, justement, « le hasard est rien ». Pour Leibniz, pour remonter encore un peu plus dans le temps, le principe de causalité relevait d'une nécessité logique. C'est une question de logique que tout effet a une cause. Alors, Hume critique cette conviction leibnizienne, remet en cause le principe de causalité. Mais Kant donc, va répondre à cette critique et établir la causalité comme une catégorie de l'entendement pur. Alors, je ne vais pas vous faire maintenant un cours sur la philosophie kantienne, mais juste un résumé dire, pour Kant, le principe de causalité universelle est une précondition de la science. Donc, il n'y a pas de science sans présupposer un principe de causalité universelle. Et dans une telle conception, le hasard ne peut provenir que des limites de notre connaissance. Mais justement, l'avènement de la mécanique quantique a ébranlé la confiance dans le règne universel de la causalité, même à l'intérieur de la physique. Alors, les débats se poursuivent, nous aurons un exposé consacré à cela. La conviction de la plupart des physiciens est qu'il y a du vrai hasard, donc en mécanique quantique, et cela remet donc en cause cette conviction que s'il n'y a pas de cause, en fait, ça sera simplement une cause inconnue. Maintenant, une deuxième distinction, sans cause efficiente ou sans cause finale. Alors ça, c'est une distinction que nous héritons d'Aristote. La science donc moderne a assez largement mis de côté les causes finales. Donc, justement, l'effort de la mécanique classique à partir du VIIe siècle, c'était de tout expliquer par des causes efficientes. Donc, ce qui produit une chose, et d'ailleurs, la théorie de l'évolution darwinienne ou néo-darwinienne est aussi un effort, justement, d'expliquer la finalité par des causes efficientes. Mais je crois qu'il est important de garder à l'esprit dans nos débats ces deux causes. Donc, un exemple très concret. Si je pose la question, pourquoi êtes-vous assis sur ce banc? Alors, vous pouvez répondre par un raisonnement de type cause efficiente. Et donc, vous pouvez donc donner la suite d'événements physico-chimiques, cérébraux, éventuellement biologiques, qui ont amené le fait que vous êtes assis sur ce banc. Donc, un appel, je veux dire, comment l'événement s'est produit. Maintenant, il est également vrai de dire, je suis assis sur ce banc pour pouvoir écouter les exposés. En tout cas, si ce n'est pas... si ce n'est pas pour cela que vous êtes assis sur ce banc, vous dissimulez bien. Donc, s'il y avait d'autres causes. Mais donc, c'est un autre type de raisonnement. Donc, la cause finale pour laquelle vous êtes assis sur ce banc, donc, c'est en fait votre désir d'écouter les exposés. Donc, quand on dit sans cause, est-ce que c'est sans cause efficiente ou sans cause finale? Maintenant, il y a une autre forme d'hasard qui peut justement exister même dans un monde déterministe. En fait, Cournot donc a proposé cette conception du hasard dans une conception parfaitement déterministe. Le hasard, donc, selon Cournot, est la rencontre de deux chaînes causales indépendantes. Et ce type d'hasard peut exister même dans un monde déterministe. Alors, je vous donne un exemple du 15 février 2013. Les astrophysiciens avaient calculé qu'une astéroïde passerait à proximité de la Terre, événement qui s'est produit. Mais le même jour, et sans qu'on l'ait prédit, une autre astéroïde plus petite a pénétré l'atmosphère terrestre au-dessus donc de la ville de Sibérie occidentale appelée Chelyabinsk, j'espère bien prononcer. Et en fait, c'est ce deuxième événement qui a causé des dégâts importants, non pas le premier. L'orbite de l'une et de l'autre des astéroïdes avait été déterminé par les lois gravitationnelles. Dans ce sens, l'un et l'autre événement avaient une cause, même une cause complète. On peut néanmoins poser la question si le fait que les deux astéroïdes sont arrivés près de la Terre le même jour est le fait du hasard ou est causé. En fait, si les deux proviennent du même corps céleste au départ. Et la plupart des analyses scientifiques, parce qu'il y a eu des travaux, donc c'était une vraie question, donc ont donné l'impression que c'était une coïncidence. Alors il y a eu un article qui a été publié dans Nature ensuite qui défend la thèse qu'il s'agit en fait de débris d'une même astéroïde au départ. Donc une vraie question, est-ce que c'est deux chaînes causales indépendantes qui se rencontrent par hasard ou est-ce qu'il y a une cause commune? Et d'ailleurs, cette question n'est pas seulement une question scientifique, elle a un impact pratique. On peut noter que l'événement le plus dévastateur avant donc cet astéroïde ou ce météore donc au-dessus de Tcheliabinsk avait été un événement comparable dans la plaine de Tunguska en 1908, aussi en Sibérie. Est-ce que c'est un hasard que les deux événements se sont passés en Sibérie? La plupart des astrophysiciens répondent que oui, Pierre Nord pourrait me contredire. Mais si ce n'était pas un hasard, il faudrait absolument déménager de la Sibérie pour éviter le prochain impact. Donc vous voyez, c'est pas que spéculatif que de se demander si c'est un hasard que ces deux événements ont lieu en Sibérie. D'ailleurs, à des distances, c'est important quand même, la Sibérie est grande, ou s'il y a une cause, si cette région-là serait plus vulnérable à de tels événements. Voilà, donc le hasard, selon Cournot, qui peut exister même dans un monde déterministe. Maintenant, une autre distinction qu'il faudra garder à l'esprit, est-ce que c'est sans cause descriptible par la science ou sans cause au sens absolu? Est-ce qu'il n'y a pas de cause physique ou est-ce que l'événement n'est pas causé par Dieu? Et donc, il y a deux niveaux de causalité à distinguer. Encore, je continue dans les distinctions, indéterminisme ou imprévisibilité. Dans les discussions, les deux sont assez souvent confondus. Mais il faut se rappeler qu'on peut prédire exactement le comportement futur de certains systèmes indéterministes. L'exemple classique, c'est la thermodynamique classique. Vous pouvez prédire exactement le comportement d'un gaz, par exemple, idéal, alors que le sous-bassement est indéterministe, déterminé par la mécanique quantique. Mais justement, quand vous avez un grand nombre d'atomes, cette incertitude vous donne un comportement macroscopique parfaitement prévisible. Mais il y a aussi certains systèmes déterministes qui sont imprévisibles dans les révolutions futures. Des systèmes chaotiques, donc un système classique déterministe mais chaotique, donc dans le sens qu'une toute petite différence dans les conditions initiales vous donne donc dans la durée des changements, des différences exponentielles, vous ne pouvez jamais prédire son évolution future parce qu'il y a toujours une incertitude qui reste. Et cela donc contre l'intelligence de Laplace, dont nous célébrons le 200e, je crois, cette année, donc de la publication de son traité. Et donc Laplace, qui justement avait cette idée que si on connaissait parfaitement les conditions initiales à un moment précis, on pourrait calculer toute l'évolution future de l'univers, même dans un monde déterministe. Sans indéterminisme, ce calcul n'est pas possible, en tout cas pas pour des scientifiques humains, qui doivent toujours travailler avec une marge d'erreur. Alors, pour Dieu, oui, si on est dans les déterminismes, mais tant qu'on reste à l'intérieur de la science pratiquée par des humains, même dans un univers déterministe, l'intelligence ou le démon de la place, comme on dit parfois, donc se trouve les mains liées parce qu'il ne peut jamais en fait prévoir l'évolution future à cause d'une trop grande sensibilité par rapport aux conditions initiales. Voilà, donc quelques distinctions qui me semblent importantes à garder à l'esprit dans nos discussions. Je terminerai sur les questions que nous allons nous poser dans la journée. Je peux justement aller très rapidement parce que je vais simplement poser les questions sans donner les réponses. Ça sera aux orateurs de le faire. Déjà, le hasard est un problème intéressant en science. Donc, en mathématiques, le calcul des probabilités, il est très fascinant de constater qu'il est possible de faire des calculs dans ce domaine. D'ailleurs, si je suis bien renseignée, c'est vrai que je n'ai pas vérifié, mais il y a des mathématiciens ici, je crois que c'est une idée relativement récente et que les mathématiciens de l'Antiquité ne l'avaient pas perçue. Donc, c'est contre-intuitif. Si quelque chose relève du hasard, pourquoi peut-on faire des calculs ? En physique, il y a tous les débats sur l'indéterminisme quantique, nous pourrons y revenir. En biologie, le rôle des mutations aléatoires, et donc je mentionne simplement, je reviendrai dans mon exposé sur le débat entre deux biologistes, Coleman Morris et Gould, qui n'ont pas la même conception du rôle qu'on doit accorder au hasard en biologie évolutionniste. Vous avez toute la thématique des systèmes complexes. Alors, en thermodynamique, en biologie, en économie, c'est Art de Louis qui reviendra sur la question. Pareil, je ne dis pas grand-chose là-dessus. Donc, déjà en science, la place du hasard est, donc, suscite des questions de recherche pertinentes. Maintenant, venons à la théologie. En fait, en théologie, on a, et en philosophie, donc, il y a aussi des questions qui se posent. Par exemple, si on va directement à la théologie, est-ce que l'indéterminisme explique comment Dieu et l'homme agissent librement ? Est-ce que le hasard, justement, est la solution à la question qu'on se pose de la liberté humaine et de l'action de Dieu ? Si tout est déterminé, où est la place pour la liberté de l'homme, ou même pour l'action de Dieu ? Est-ce que le hasard donne la réponse ? Une autre question, quelle place pour le hasard dans un monde dans lequel tout se produit suivant le projet de celui qui mène tout au gré de sa volonté ? Éphésiens 1, verset 11. Si Dieu produit tout selon sa volonté, comment est-il possible de faire place au hasard ? Et est-ce que Dieu peut contrôler tout événement, s'il y a des événements aléatoires ? Et cette question se pose pas seulement par rapport à la toute-puissance de Dieu, se pose aussi par rapport à sa connaissance, son omniscience. Si Dieu connaît l'avenir, quelle place pour le hasard ? Si Dieu sait le résultat de tel ou tel événement aléatoire demain, comment cet événement peut réellement relever du hasard ? Donc, des questions sur lesquelles nous aurons aussi à revenir. Et je terminerai avec ce qui sera le thème de la dernière intervention aujourd'hui, le hasard dans la vie du croyant. Parce que le hasard est bien dans la Bible. Et je vous donne... Donc, il y a bien donc des questions qui se posent. Justement, comment pouvons-nous avoir l'assurance que le plan de Dieu s'accomplit dans un monde indéterministe ? Et en là, dans la Bible, donc là... Vous avez en fait une citation du livre du roi, donc 1 roi 22. Un homme tira de l'arc au hasard et frappa le roi d'Israël. C'était en fait un événement prédit par le prophète, qui avait prédit au roi qu'il sera tué. Mais justement, le texte dit que cet événement se produisit par hasard. Donc l'homme n'avait pas spécialement visé le roi d'Israël. Parce que le roi d'Israël s'était déguisé en simple soldat. Il y a même une parole de Jésus. Dans la parabole du bon samaritain, par hasard, un prêtre descendait par le même chemin. Il le vit et passa à distance. Et je terminerai sur un texte assez insolite que je laisserai à votre réflexion. Les Philistins, alors on pourrait dire sont pas des croyants, c'est assez intéressant à noter. Donc les Philistins conçurent même une expérience pour tester l'alternative hasard ou châtiment de Yahvé à leur égard. Vous connaissez peut-être l'histoire. Donc, ils avaient donc volé l'arche de l'alliance aux Israélites, étaient frappés par des plaies. Voulaient savoir si c'était châtiment de Dieu ou simple fait du hasard. Ils placent l'arche de l'alliance sur un char tiré par deux vaches qui allaitaient, et ils gardent les petits avec eux, donc derrière. Et ils se disent, si les vaches contre nature vont se séparer de leurs petits et tirer le char pour aller en Israël, nous saurons que c'est l'Éternel qui nous a causé ce grand malheur. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappé d'une plaie, mais que cela nous est arrivé par hasard. Voilà, je vous laisse réfléchir. Quel serait l'équivalent d'expérience de ce type dans notre propre vie pour départager entre les deux hypothèses? Mais nous y reviendrons.